A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Mehdi Benatia a le sens de la famille, alors cherchez pas. Pour lui, ceux qui font partie du cercle intime s'appellent Buñuel, Pasolini, Godard ou Chabrol. Né dans la Tunisie de Bourguiba, ce scénariste-réalisateur tunisien installé en France est un cinéphile qui connaît ses classiques. La cinquantaine amoureuse de sa terre natale, il flirte de film en film avec la question de l'identité sexuelle ou sociale de cette Tunisie post-Ben Ali. Que nous dit par exemple cette jeune photographe qui fait des portraits d'hommes dénudés sur le désir dans la Tunisie d'aujourd'hui. Incarnée à l'écran par l'émouvante Afsia Herzi, elle est peut-être le portrait inversé de notre réalisateur qui signe L'amour des hommes, film doucement provocateur et qui sort ce mois-ci en DVD. Très heureuse de vous recevoir, Mehdi Benatia.
Bonjour, très heureux d'être là.
Alors, je suis pas sûre que vous soyez fétichiste, je sais pas trop d'ailleurs, mais il y a quand même un objet fétiche dans votre parcours de cinéaste, c'est le magnétoscope.
Ah oui, je l'ai pas mis dans les films. Oui, c'est vrai, c'est l'objet qui a décidé ma vie. Un jour, il est entré à la maison et avec des cassettes. Dans un premier temps, d'ailleurs, de films un peu stupides, des trucs avec Belmondo de l'époque des années 80.
Belmondo appréciera.
mais il a fait des choses très belles par ailleurs, mais pas nécessairement ces films-là. Bref, et voilà, et ça a vraiment été un tournant, quoi. Tout d'un coup, la télévision n'était pas juste un truc sur lequel on recevait de manière stupide des images qui ne nous intéressent pas et que nous ne comprenons pas, mais un truc qu'on peut contrôler, on peut mettre des choses dedans, et c'est des films. Et voilà, j'ai découvert le cinéma à 14-15 ans, grâce au magnétoscope que mes parents avaient acheté.
C'est comme Cinémascope.
Alors, puisque vous êtes un cinéphile, vous avez apprécié hein, quand même le son du magnétoscope, c'est quelque chose. Hein. J'ai une question impossible pour commencer, Mehdi Benatia. Quelle est la, comme ça, au débeauté, spontanément, la plus belle scène que vous ayez vue au cinéma?
Oui, ça c'est vraiment...
Faites redérouler votre magnétoscope.
C'est vraiment
là.
Très difficile, ouais. Je pense à Hitchcock, spontanément, comme ça. Je pense à Vertigo, je pense au moment où il essaie désespérément de fabriquer la femme qui correspond exactement à son souvenir, donc à son idéal. Et ça y est, il lui arrive, il y a juste un petit truc à changer dans la coiffure, et c'est bon. Et elle revient de la salle de bain, elle a changé le truc dans sa coiffure, elle est la femme parfaite. Il y a une lumière verte qui rentre, la pharmacie qui clignote, je crois, à l'extérieur. Il y a du rouge, il y a du vert, et c'est parfait, voilà.
Bon, on l'entend tout de suite, hein. Le cinéma c'est donc une somme d'ingrédients. Et comme vous nous avez presque donné la recette pour faire une bonne sauce cinéma, voilà ce que ça donne pour en sol majeur.
Nous attachons une si grande importance à notre vie que la plupart d'entre nous en arrivent à négliger complètement leur mort. Or, peut-être nous suffirait-il de considérer que la mort fait partie intégrante de la vie pour qu'aussitôt nous prenions un plus juste souci de la nôtre.
De la jungle, de la tension musicale, du verbe, est-ce qu'on est là dans votre salle obscure idéale, Mehdi ?
Ouais, on n'est pas loin en tout cas.
Ah oui ? Est-ce que vous avez reconnu là ?
Bah, j'ai reconnu la voix de Guitry. Je sais pas pourquoi ça commence par des voix.
Qu'est-ce qui commence par des voix?
Le cinéma. Je veux dire que, au fond, même si j'ai fait un film qui s'appelle L'amour des hommes autour de la photographie, je m'en fiche un peu. Ça m'intéresse à partir du moment où ça bouge et surtout à partir du moment où ça parle.
Et puis, parmi les ingrédients, il y a quelque chose qui vous intéresse aussi, c'est la tension musicale. Là, Hitchcock est passé maître dans cet art-là, mais il y a aussi De Palma.
Oui, tout à fait. Et il y a plus généralement, effectivement, un rapport à la fiction qui a besoin de passer par de la tension. Je ne sais pas exactement pourquoi.
Et puis la jungle, alors ? Parce que tous ces ingrédients, c'est vous qui me les avez soufflés à l'oreille.
Oui, tout à fait. C'était plutôt comme on donne des exemples d'ambiance immédiatement reconnaissable. Moi, je ne suis jamais allé dans la jungle. Je ne connais pas du tout. Mais j'ai l'impression de connaître et même de connaître intimement parce que j'ai vu des films qui se passent dans la jungle et que j'ai été plongé dans cette ambiance sonore-là avec des singes qui hurlent au loin et une pirogue qui avance sur un fleuve. C'est en général des très très beaux plans. Et d'une certaine manière, ça façonne ma connaissance du monde presque mieux que les voyages que j'ai pu faire où finalement on est dans une chambre d'hôtel, on pourrait être n'importe où dans le monde.
Et en même temps, cette bande-son qu'on vient de fabriquer en sol majeur, elle est très très loin de ce qu'on peut entendre dans votre cinéma à vous, Mehdi Benatia. Le cinéma, c'est l'art de quoi, selon vous ?
Je vais enfoncer les portes ouvertes, hein, mais c'est de raconter des histoires avec des images et des sons.
Alors, vous avez commencé notamment aux côtés d'André Téchiné, qui est un immense réalisateur français et qui aborde souvent des questions de société comme l'homosexualité, la prostitution, la délinquance, l'adultère. Est-ce que travailler avec lui a aidé à votre éclosion, à vous, à l'éclosion de votre univers à vous ?
Certainement, sans que je m'en rende nécessairement compte à chaque instant. Mais oui, j'ai beaucoup appris de Téchiné, et en particulier j'ai beaucoup appris de Téchiné à un endroit qui est celui du passage du scénario dont je m'occupais à la mise en scène dont je ne m'occupais pas. En voyant les films, j'ai vu ce qu'il avait fait des scènes et je me suis dit ah oui tiens, on peut donc s'approprier à ce point les choses qu'on a écrites. Et ouais, ça c'était une révélation.
Oui, et puis il y a ce territoire sociétal, comme on dit.
Sociétal et intime. Il n'aborde pas les sujets de société d'une manière, entre guillemets, journalistique. Il les aborde à travers un point de vue assez intime, à travers lui-même, à travers ce qu'il a à dire de lui-même.
C'est votre cas ?
Ouais, je crois.
On va voir ça alors. En face, c'est donc votre premier film, Mehdi Benatia. Vous l'avez réalisé en 99-2000.
Ouais, c'est ça, co-réalisé.
Court-métrage qui raconte quoi ?
Qui raconte l'histoire d'un mariage forcé en Tunisie. On était deux réalisateurs, on adaptait une nouvelle française du 19e d'un écrivain raciste qui s'appelle Gobineau.
Waouh. Quel pied de nez incroyable.
C'est ça. Ouais. Et c'était l'histoire d'un mariage forcé dans la France post-napoléonienne. On l'a adapté à la Tunisie contemporaine de l'époque.
Pour dire quoi de la Tunisie alors à ce moment-là ?
Je suis pas sûr qu'on avait quelque chose à dire sur la Tunisie. On avait une histoire à raconter, une histoire un peu bizarre, une fille dont on se demande un peu si elle est handicapée mentale ou pas. Mais si on se demande, c'est donc qu'il y a déjà un problème. Elle grandit avec ses parents. Il faut la marier parce que ses parents ne seront pas toujours là. Et donc, on la force à épouser un homme qui ne veut pas d'elle et dont elle ne veut pas. Alors, pourquoi on a raconté cette histoire-là exactement ? Je ne m'en souviens pas. Je crois
Détourné
que c'est parce qu'elle était...
Détourné d'un texte de Gobineau qui était un théoricien... Enfin, qui était dans les théories raciales.
Hein. Ah oui, le théoricien du racisme. Enfin, vraiment, le type qui a inventé le racisme.
Vous êtes un subversif, vous, hein ?
Non, je pense que les nouvelles de Gobineau n'avaient rien de... n'avaient pas de contenu idéologique. Voilà.
C'est l'histoire de Yacine, un jeune étudiant français d'origine arabe qui fait des études supérieures. Il est brillant, mais il gagne sa vie un peu comme coursier tout en vivant chichement dans un studio avec son frangin. Et sa vie va basculer le jour où son professeur de philosophie politique, avec qui il était en train de nouer une amitié naissante, meurt d'une rupture d'anévrisme. Et du jour au lendemain, Yacine n'est peut-être plus Yacine, il vit une sorte de trouble d'identité sous les yeux de son jeune frère qu'il se met à vouvoyer. Je ne suis pas mort. Extrait.
Bonjour. Bonjour. T'étais où ?
Excusez-moi, j'ai un CV à envoyer. J'en ai pas pour longtemps.
Abdallah a appelé, je te signale. Il voulait te virer. J'ai été obligé de prendre ta place.
Prendre ma place, ah bon ?
Je te remplace. J'ai dit que t'étais malade, mais que je pouvais te remplacer. Yacine. Yacine, putain, je te parle !
Moi, putain, je cherche un CV.
Putain, mais qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que je t'ai fait ?
Y a pas de connexion. Vous savez s'il y a une connexion dans cet appartement, là ? Excusez-moi, je regarde.
Et ma parole, Yacine. Soit t'arrêtes, soit je vais te défoncer la gueule, là.
Oh ! Ah, ça va pas ? Qu'est-ce qui vous prend là? Vous avez un problème? J'ai l'air d'un fou.
Oui, t'as l'air d'un fou.
Je ne suis pas mort, extrait de votre deuxième long métrage pour En sol majeur, Mehdi Benatia, donc réalisé après En face. Alors oui ou non, est-ce que votre Yacine est fou ou pas?
Je crois bien que oui. Peut-être que ce qui lui arrive est vrai, peut-être qu'il y a réellement Richard dans sa tête, mais on peut quand même faire l'hypothèse...
Alors quand vous dites qu'il a Richard dans sa tête, c'est-à-dire que son prof de philo qui vient de mourir survit en lui?
Il dit qu'il est Richard, lui. Il dit que Richard n'est pas mort, qu'il y a une erreur, comme ça, qu'il est Richard. Mais on peut supposer quand même que ça, c'est pas vrai, que les gens ne se baladent pas dans la tête des autres, et que donc il est fou. Et de quoi est-il fou? Moi, j'appelle ça, de manière peut-être un peu rapide, la maladie des Arabes. C'est-à-dire un truc, dans ce pays en tout cas, qui dit « Ah mais oui, mais moi, si j'étais pas un Arabe, ça irait mieux pour moi. Ça serait plus facile, ça se passerait mieux. C'est parce que je suis un Arabe que ça ne marche pas pour moi. » Ce qui est quand même une proposition légèrement délirante, parce que nous sommes ce que nous sommes, nous ne pouvons pas être autre chose que ce que nous sommes. Mais voilà, j'ai voulu, avec Je ne suis pas mort, raconter une histoire sur cette folie-là.
Mais c'est une folie qui dit quelque chose à la fois sur l'identité arabe et, oui, et qui dit quelque chose aussi sur la société française.
Absolument.
Qui est le plus fou?
Ben, en tout cas, si les Arabes de France sont entrés dans cette folie-là, c'est bien qu'il y a quelque chose dans la société française qui a, sinon fabriqué, en tout cas, laissé se développer cette folie. Que beaucoup de gens n'acceptent pas dans l'assignation comme ça à identité arabe, et les gens font ce qu'ils peuvent avec l'endroit où ils naissent, quoi.
Et en même temps, je dirais que vous vous amusez avec peut-être la dimension mystique, métaphysique. Il y a un prof de philo à un moment qui a cette phrase qui dit « Exister, c'est se tenir hors de l'être ». Donc vous vous amusez avec la métaphysique, peut-être aussi avec la psychanalyse. Parce que là, vous introduisez, même si c'est de la folie, même si on ne sait pas si c'est vrai ou faux, ce corps d'occidental... dans un corps maghrébin.
C'est ça, cette âme occidentale dans ce corps maghrébin.
Qu'est-ce que vous dites de ce nous occidental et maghrébin?
J'en viens à me le demander, hein. J'en viens à me perdre moi-même dans la folie de mon personnage qui n'est pas cohérente par tous les endroits. Je dis quelque chose d'un tout petit peu paradoxal, parce que quand j'ai fait Je ne suis pas mort, au fond, autant Yacine, le personnage qui n'accepte pas son identité, rejette profondément son arabité, je ne sais pas si on peut dire ça, autant ses profs, etc., eux, ils sont ravis qu'un jeune rebeu de banlieue, etc., puisse être un étudiant extrêmement brillant et devenir peut-être à l'avenir un haut fonctionnaire, machin. Eux, ils se disent, ah, enfin, on n'est pas juste dans la reproduction des élites, au fond. Mais lui, même ça, ça lui va pas. Même ça,
oui, mais ça dit quelque chose de la condescendance de la société française.
Ouais,
parce que cette galerie de personnages dont vous parlez, qui sont du côté du pouvoir... Ils sont condescendants, il y a un paternalisme latent vis-à-vis de ce personnage.
Bien sûr.
Pourquoi avoir tourné un film sur cette France-là après avoir tourné En face, qui se passait en Tunisie et qui abordait déjà la question du désir?
Pourquoi? J'ai du mal à trouver des histoires à raconter en France.
Je vous embête avec mes questions. Hein, que pourquoi?
je suis parti de moi là aussi. Je suis parti de moi-même. J'ai fait des études supérieures, Sciences Po, machin. Et donc j'ai vu ce moment où moi j'étais Mehdi Benatia au milieu d'élèves qui s'appellent pas du tout comme ça, et où je me disais mais ils me regardent bizarrement. Je me sens différent. Je me sens pas à ma place. Je sens pas une malveillance. Je sens une incompréhension, voilà, c'est là-dessus.
B.
B comme black,
black,
blanc,
blanc,
beurre.
Donc vous, Mehdi Benatia, on ne l'a pas encore dit, mais vous êtes né en 68 en Tunisie et vous allez débarquer en 86 dans le bleu-blanc-rouge de cette France qui était en marche vers son black-blanc-beurre, si on peut dire comme ça. Est-ce que précisément vous vous êtes senti proche à ce moment-là de cette France black-blanc-beurre, c'est-à-dire cette jeunesse des banlieues?
Pas particulièrement celle des banlieues. J'ai toujours eu une conscience assez nette d'être un arabe en France. Je vois pas pourquoi j'aurais pas cette conscience, je le suis. Et il me semble que les arabes en France, c'est pas juste les gens qui ont grandi en banlieue. C'est un ensemble plus
clairement,
large.
Clairement, non, mais c'était ce slogan qui laissait penser ça.
Ouais.
Et vous étiez dans quelle France alors?
J'étais à Paris, moi. Black Blanc Blanc m'a toujours semblé un slogan. Dans un premier temps, d'ailleurs, je ne le comprenais pas parfaitement. Parce que dans Black Blanc Beurre, j'ai l'impression d'être beurre, mais j'ai aussi l'impression d'être blanc. Je comprenais pas très bien la contradiction entre le fait d'être blanc et le fait d'être beurre. 30 ans plus tard, les revendications sociétales, les mouvements se sont développés et j'ai appris que j'étais non blanc. Et tous ceux qui sont pas blancs sont des non blancs. J'ai l'impression qu'on est dans une manière de vouloir absolument qu'on rentre dans des cases et qu'on n'en sorte pas, et qu'on ait des problèmes liés uniquement à son appartenance d'origine et son identité, comme on dit. Et j'ai l'impression que tout ça est un mauvais chemin et qu'il vaudrait mieux arrêter de penser à qui on est et peut-être essayer de penser à ce qu'on peut faire dans ce monde.
Alors, il y a en tout cas mille et une France, comme il y a évidemment mille et une Tunisie. Vous avez grandi dans quelle Tunisie, vous ?
Bon, j'ai eu une enfance assez confortable. Mon père était médecin. J'ai grandi d'abord dans la ville de Tunis, ce qu'on appelle la ville européenne de Tunis, mais à la lisière de la Médina, vraiment à la frontière. Et ensuite, comme beaucoup de bourgeois, mes parents se sont installés à La Marsa, c'est-à-dire au bord de la mer, là où avant il y avait les résidences d'été des bourgeois. Et puis finalement, ils ont mis le chauffage central et ils sont restés toute l'année à la résidence d'été. Et c'était beaucoup plus confortable.
Est-ce que ça veut dire que vous avez grandi dans une sorte de petite France là-bas?
C'est quand même assez différent, hein. Il y a des points communs parce qu'il y a une francophonie en particulier. Dans ma famille, on parlait beaucoup français. Mais quand même, l'arrivée à Paris, ça m'a quand même beaucoup changé. Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont préparé dans mon enfance en Tunisie à poursuivre en France. La France était plutôt comme une rupture.
Alors comment ça s'est passé, cette rupture?
J'ai découvert la liberté. J'avais 18 ans. J'ai grandi dans un univers à la fois agréable, protecteur, mais aussi un contrôle social assez développé.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la famille est assez regroupée, les gens ont quelque chose à dire sur ce que vous vivez. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien, des choses qui sont mal élevées. Ouais, exactement. Vous êtes pas libre. J'arrive à Paris, je suis libre. Et j'en profite.
Est-ce que vous avez la maladie de l'arabe en arrivant?
Non, en vérité, je crois que je ne l'ai jamais eu vraiment.
Mais expliquez-nous, comment c'est possible de pas tomber dans cette maladie-là?
Peut-être parce que, tout simplement, n'ayant pas grand-chose à prouver de ce côté-là, alors je n'ai pas à surinvestir l'appartenance communautaire, puisque de toute façon, l'appartenance communautaire, elle m'est donnée.
Vous pensez avoir quel karma, Mehdi Benatia?
Je sais même pas ce que ça veut dire.
C'est bien, ça m'arrange. En tout cas, je vous imagine, d'ailleurs, vous le disiez un peu, c'est en amoureux des lieux interlopes, des lieux où on peut écouter Massive Attack. Vous les vouliez d'ailleurs dans un morceau qui s'appelle Karma Coma.
C'est vrai.
Pourquoi ça?
Ah, mais j'ai pas fait attention aux mots.
Je crois que vous aimiez les mots, vous.
Ouais, mais
on a commencé avec Guitry.
On se contredit minute après minute.
C'est insupportable.
J'ai aimé ça. J'ai aussi aimé. C'est une période de ma vie. C'est la musique des années 90 où je me suis principalement amusé sur des musiques.
Vous avez touché à tout, on dira rien. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Don't lie and say this love is best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple. Especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. 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 Take a walk,
We overcome in 60 seconds with the strength we have together, but for now emotional ties, they stay severed when there's trust to be treated. Someone with funk will hear beats. Karma, coma, Jamaica aroma. Karma, coma, Jamaica aroma. Karma, coma, Jamaica aroma. Karma, coma, Jamaica aroma.
Un sol majeur installé dans le monde de Mehdi Benatia en train de siroter Massive Attack, c'est sur RFI, et franchement, qui s'en plaindrait au pays du coco vin ou du jasmin? Mehdi, si on retournait un petit peu, deux minutes, hein, juste sur le lieu du crime, celui des grands discours fleuves, façon Bourguignon. Ah.
Combattre à bon escient, c'est connaître la mesure exacte de sa propre force. C'est doser son effort. C'est définir le moment le plus opportun pour l'action. C'est déterminer avec précision ce qui peut attendre et ce qui ne le peut pas.
Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, cher peuple tunisien, je vous ai compris, je vous ai tous compris. Le chômeur, le nécessiteux, le politicien, et tous ceux qui revendiquent plus de liberté. Je vous ai compris, je vous ai bien compris tous.
D comme dictionnaire des idées reçues.
Oui, c'est presque un cliché hein, de cette Tunisie qu'on ne connaît pas si bien. Voilà en tout cas un résumé du contexte tunisien que vous avez vécu, Mehdi Benatia, à la fois intramuros et à distance. Ça vous évoque quoi lorsque vous entendez Bourguiba et Ben Ali?
Pour ce qui est de Bourguiba, en entendant là sa parole, ce qui me frappe, c'est combien il est ivre de lui-même. C'est combien, au fond, il s'écoute. Il tenait le micro pendant des heures et des heures et il parlait au peuple. Et tout ce qu'il disait semblait très important. Et je dis pas ça pour démentir l'importance de Bourguiba dans l'histoire de la Tunisie. Elle est évidente, mais le type, il parlait tout le temps. Et donc, probablement, il n'écoutait pas beaucoup. Et pour ce qui est de Ben Ali, là, c'est un discours assez différent de tout ce qu'il a pu prononcer. Il n'en le prononçait pas beaucoup. C'est un discours qui est en langue tunisienne, alors que d'habitude, il parlait dans une espèce de langue arabe littéraire, langue de bois, un peu habitable. Et là, tout d'un coup, je pense qu'il fait appel à un communicant français qui lui dit « Le général de Gaulle, un jour, a dit « Je vous ai compris, c'est ça que vous devez dire aux gens. » Il leur a dit « Je vous ai compris », le surlendemain, il était dans l'avion. Hein. Voilà. Ce sont deux excès, à mon avis, contraires. L'un, homme du verbe, mais de trop de verbes, je trouve, et l'autre, enfin... très pâteau quand il s'agit de parler, quoi.
Et cette révolution tunisienne, est-ce que vous l'avez vécue ici en France ou
principalement oui. Ici.
Via les réseaux sociaux.
Via les réseaux sociaux, via aussi la communauté tunisienne ici. Je me souviens des manifs où on essayait d'aller devant l'ambassade de Tunisie, mais l'ambassade de Tunisie, on pouvait pas y avoir accès, donc il fallait aller à Saint-François-Xavier. C'était des manifs devant l'église Saint-François-Xavier qui avait rien demandé à personne. Mais enfin, on avait quand même l'impression là où on était de participer à ce mouvement. On disait pas encore révolution, on savait pas que c'était une révolution. On pensait juste que c'était une protestation. Et on essayait d'obtenir que Ben Ali ne fasse pas un énième mandat, puisque c'était ça l'enjeu de l'époque.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
Nous sommes dans votre Tunis à vous, Mehdi Benatia, avec cet extrait de L'amour des hommes, votre nouveau film. On est dans le soleil et dans le deuil à la fois, puisque Amel, votre personnage, votre héroïne, belle brune, cheveux longs et jeune photographe, vient de perdre son mari. Et là, son beau-père fait un geste incroyable, il l'invite à la mise en terre. C'est un geste qui est une vraie première transgression dans votre film.
Oui, dans la tradition musulmane, comme vous le savez, les femmes ne vont au cimetière que lorsque les hommes l'ont quitté. Les enterrements sont des cérémonies religieuses et donc les femmes n'y ont pas accès. Et il commence à y avoir ça, je n'invente rien, dans la société tunisienne, des gens qui commencent à organiser la mixité des cérémonies d'enterrement. Alors, dans mon film, c'est différent parce que c'est seulement une femme qui va toute seule et son beau-père qui la prend par la main et qui impose sa présence aux obsèques de son mari. Mais ça commence à se voir en Tunisie, voilà.
Alors, je remarque que vos histoires, qui sont souvent des histoires d'émancipation, commencent souvent par la mort d'un être cher.
Oui, vous avez raison, je crois.
Vous n'avez pas remarqué ça dans l'écriture de vos scénarios?
Si, si, j'ai remarqué qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on aille filmer dans un cimetière, ça j'ai remarqué. Mais pourquoi
Ça, vous ne savez pas.
Non,
c'est la figure paternelle dont il faut s'émanciper, c'est de la petite cuisine là sur.
Bah là, sur non, là, c'est le mari en fait. Là, c'est,
oui, c'est la figure masculine de toute façon et on est dans le monde arabe, donc on sait ce que ça veut dire.
En effet, ça doit être ça. Non, mais il est vrai que l'émancipation consiste assez fréquemment à s'émanciper d'une part patriarcale, masculine, virile, macho, je sais pas comment il faut dire, mais ouais, ça, ce qui l'empêche, c'est quand même souvent de cet ordre-là. Mmh. Et y compris pour les hommes.
Belle histoire d'émancipation, en tout cas, dans l'amour des hommes. Cette histoire que vous racontez, qui est une histoire de désir et d'érotisation des corps masculins, c'est d'abord l'histoire d'un regard inversé chez vous.
Ouais. Elle veut regarder les hommes comme les hommes regardent les femmes. C'est ça presque mon slogan, quoi.
ouais.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment les hommes regardent tous les femmes de la même manière? Mais en tout cas, oui, globalement, elle veut regarder le corps des hommes. Et je me suis rendu compte en le faisant que finalement, il y avait une part assez importante de transgression là-dedans. Chose dont je me rendais pas nécessairement compte dès le début. Je veux dire que la notion qu'une femme puisse avoir du désir pour les hommes, croyez-moi ou non, elle m'a pas paru immédiatement immensément transgressive. J'ai l'impression qu'en fait c'était quand même accepté par la plupart des gens. Mais il y a un truc qui dit, ah mais oui, mais quand même dans le monde arabe, non, c'est difficile et tout ça. Et donc le film est, je ne sais pas si c'est sur ça que porte votre question, d'ailleurs le film se révèle être transgressif et il y a une vraie jouissance là-dedans.
Dans évidemment. Des petites choses hein, aussi, dans des scènes que vous tournez à Tunis, juste voir une terrasse de café mixte avec des jeunes gens qui boivent de la bière, qui boivent de l'alcool publiquement, et puis une jeune fille qui est en petit décolleté, ça c'est une scène presque subversive dans le monde arabe.
Ouais, c'est marrant, hein,
parce que
ouais. Et c'est pas pour jeter des fleurs à la Tunisie et tout ça, mais quand même, dans la plupart des pays arabes, cette scène serait juste impossible. Je pense que même si on arrivait avec une équipe de cinéma, une fille légère et courvêtue, et qu'elle s'asseyait au milieu des figurants, il y aurait chez les figurants un mouvement de protestation, comme ça. Oui, ce serait pas possible. En Tunisie, ça reste de la fiction, mais c'est de la fiction ancrée dans du réel. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de manif de figurants.
Alors, on va s'approcher de ce bon vieux magnétoscope des familles, Mehdi Benatia, pour savourer un extrait de ce film, la scène se passe après qu'Amel ait emmené un de ses modèles garçons dans la maison de son beau-père et de sa belle-mère qui vient de surprendre une séance photographique avec un garçon qui est torse nu dans une lumière comme ça tamisée. Évidemment, le garçon s'éclipse tout de suite et Amel assiste ensuite à une sorte de bras de fer entre le beau-père et la belle-mère. L'amour des hommes, extrait.
Tu m'entends ? ما كانش كشك وحنك الباب
شنو هو هذا كلام تقوله لها والدين والديك
بارك الله عليك
والدين والديك
كلمي فو سي طيب
نو جو نو مكلمري با مو جو سوي با ان انمي دو لار اي دو لا ليبرتي تو بو فير فينير تي موديل سي سا تشانت تو بو ميم فير فينير تي زامون
الله الله
كل حاجة تمسها تذبال تغزر لها تخياب أجمل حاجة في الدنيا في عينيك تولي زبلة
وانتي كل ما تحل فمك تبهرنا بالجمال فيق على روحك تربت ولدك نزلت سخونة
Pas de manichéisme hein, au pays de Mehdi Benatia, puisqu'on vient de l'entendre en sol majeur avec cet extrait de l'amour des hommes. On sent que les anciennes générations ne sont pas forcément toutes sur la même ligne, hein, cette dispute conjugale. Il y a des femmes conservatrices, puis des hommes modernistes. Et puis, dans l'homme moderniste, il y a de l'ambivalence aussi, puisque cette figure de beau-père en est le parfait exemple.
Oui, et peut-être que dans la femme conservatrice, il y a aussi de l'ambivalence. En gros, elle reproche à sa belle-fille d'avoir amené un modèle peu après la mort de son propre mari et de l'avoir dénudé. Le mari explique que lui est du côté de l'art, de la liberté, et que c'est très bien de faire venir des modèles chez soi, et même des amants, pourquoi pas. Mais il me semble que dans le modernisme du mari, il y a peut-être une part qui dit ça juste pour faire plaisir à sa belle-fille, qui est une artiste, pour être du bon côté, pour quand même lui plaire. Et que du côté de l'épouse, si elle est aussi
intransigeante,
conservatrice, c'est aussi parce que, de certaine manière, son mari l'a poussée vers ça. Il a pris le beau rôle et il a fait d'elle une espèce de vestale dont la vie est uniquement consacrée aux tâches de maîtresse de maison.
Et c'est ce que vous observez, vous, dans la société tunisienne? Les patriarches sont un peu dans une sorte d'ambivalence comme ça. On peut être un intellectuel, amoureux de l'art. Il va jusqu'à être mécène de cette jeune photographe. Et puis, à vouloir exercer son droit de cuissage.
Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que je vois vraiment. En tout cas, dans la génération au-dessus de la mienne, la génération de mon père, j'ai vu beaucoup de ces gens comme ça, de gauche, aux idées de liberté assez affirmées et tout ça, mais qui quand même, chez eux, se conduisent comme des tyrans domestiques, etc. Peut-être d'ailleurs que c'est pas spécifique à la Tunisie, peut-être que ça existe ailleurs.
Est-ce que vous diriez que la révolution tunisienne est passée par là, dans la tête de tous ces personnages qui, hommes et femmes d'ailleurs, ont des profils très différents?
Non. Je dirais que la révolution tunisienne est passée par là pour les personnages qui ne sont pas des bourgeois dans le film. Pour les modèles d'Amel, les jeunes hommes qui acceptent de poser pour elle, alors ça, oui, avant la révolution, ça n'aurait pas été possible. Mais le mode de vie assez libéré, ce qu'on peut appeler les élites francophones, j'aime pas beaucoup ce mot, non, ça existait déjà.
C'est dans les couches populaires que vous sentez qu'il y a...
Une demande de liberté qui s'est affirmée très fort en 2011 et qui a perduré depuis. Avec bien sûr des contradictions, tout ne va pas toujours dans le même sens, mais oui.
Alors ce qui est assez joli, c'est que votre personnage, celle qui transgresse et qui est incarnée très joliment par Afsia Herzi, qu'on avait bien repéré dans La Graine et le Mulet, elle est indépendante, oui, mais pas forcément féministe. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti, elle.
Non, elle est mue par une nécessité intérieure, plus que par une revendication. Pour elle, c'est normal, en fait. Elle faisait des autoportraits. Et puis, après la mort de son mari, elle se met à regarder les hommes. C'est presque comme si elle enquêtait, en fait, sur le masculin, sur le continent masculin, comme ça. Elle veut les prendre en photo, elle veut les comprendre. Et là-dedans, il n'y a pas « mais moi j'ai le droit », il n'y a pas une revendication, un combat féministe, il y a juste une envie de comprendre.
Et en fait, la clé de ce personnage, c'est votre titre, « L'amour des hommes ».
Oui, exactement. Elle se rend compte, je crois, chemin faisant, elle aime bien les hommes.
واللي يحكي بروحه مش يتسنى
سنى
يقلب البوزي كان يتشنى
سنى نحكي علي حاله من أحوالي
مصيب
شوية شبيك شوية
شبيك خايفة على سعاد تجي
ليه مش من سعاد ما كسيت طيب ليه هو زيد امبوسيبل يجي رغم دكدك في حالة
صاروا يزيد كعبخنا فيها قرا لما يدو
اوكي تصكك هكا
تفلاه فيش تحكي
Du hip-hop la nuit et du muezzin le matin au pays du jasmin avec ce film L'amour des hommes, je me suis demandé, Mehdi Benatia, si lorsque vous avez filmé tous ces hommes qui posent pour cette photographe, ils posent dans des torses nus, dans des poses suggestives la plupart du temps, est-ce qu'ils ont été ouverts à cette partition assez sensuelle que vous leur proposiez de jouer?
Extrêmement ouverts. Je crois pouvoir dire qu'ils ont adoré. Et je crois qu'il y a eu une grande part de plaisir de se laisser regarder et de plaisir d'être un objet.
Alors, ce film, en fait, pourrait presque faire suite à votre film Le Fil sur l'homosexualité. un film qui a été réalisé en 2009, c'est-à-dire que Ben Ali était encore en place, et l'homosexualité un délit. Et d'ailleurs, si on feuillette aujourd'hui la presse, les faits divers sont révélateurs d'une température mentale. Peut-être que vous avez entendu parler de cette jeune fille, Tara Fares, Miss Irak et blogueuse, qui a été tuée récemment dans les rues de Bagdad. Et on se souvient tous de cette jeune fille marocaine qui s'est suicidée. L'article 475 du Code pénal au Maroc permettant à un violeur d'éponger sa faute en épousant sa victime. Ouais, vous en souvenez de ce fait divers. Bref, la question du désir et du droit des femmes, vous diriez-vous que c'est la clé du monde arabe ?
Il y a quelque chose d'un tout petit peu désespérant, parce que de là où je suis, de là où nous sommes, il nous semble que le désir, chez les hommes comme chez les femmes, l'homosexualité, tout ça, ce sont des faits sociaux universels, c'est vieux comme le monde, ça existe partout, il n'y a pas de problème, etc. Et on se rend compte qu'il y a quand même dans les sociétés, probablement toutes les sociétés du monde arabe ou du monde musulman, une immense résistance à ces évidences, pures évidences. Moi, je sais pas très bien quoi faire, c'est-à-dire que
Faites un film?
Ouais, mais, certes, mais je veux dire que dans les films que je fais comme si au fond toutes ces résistances n'étaient que les rémanences d'un ordre ancien, et j'essaie de construire le chemin vers la liberté pour tous sans prendre en compte, en fait, je mets pas en scène la bêtise crasse, c'est pas possible.
Mais vous mettez quand même le doigt où ça fait mal.
Mais ça devrait pas, je trouve que ça devrait pas faire mal. Ça devrait tellement se conclure en une conversation. Voilà.
Ouais. Votre film a été soutenu par le ministère de la Culture, hein, en Tunisie. Film où, par exemple, si on donne juste une scène, l'un des modèles hommes est en slip et vous le montrez en érection. C'est-à-dire que quoi? La censure n'opère plus aujourd'hui en Tunisie?
Ah oui, il faut vraiment croire que quelque chose a changé. Il n'y a plus de censure en Tunisie. Je veux dire qu'il n'y a plus de censure officielle, il n'y a plus dans le ministère de je sais pas quoi, de la culture ou de l'intérieur, un type qui est payé pour dire toi oui, toi non, là on passe les ciseaux, etc. Ce poste n'existe plus. Officiellement, c'est comme ici, on fait ce qu'on veut, il y a une censure économique et tout ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a...
Il y a quand même aussi un bras de fer avec la question intégriste.
Bien sûr, mais la question intégriste n'a pas un bureau au ministère de la Culture qui a le pouvoir de dire tu ne feras pas ton film.
Est-ce que vous avez pensé à Pasolini en faisant ce film, Mehdi Benatia?
Je pense toujours beaucoup à Pasolini.
Pourquoi?
Je crois que c'est parce que c'est le cinéaste de l'ébranlement de l'ordre social par la circulation du désir. Ce sont les désirs qui font que chacun ne reste pas dans sa case de sa naissance à sa mort. On éprouve une attirance vers l'autre qui dépasse même nos intérêts, etc. Quoi.
Alors je vous propose en sol majeur encore un extrait de votre film « L'amour des hommes » pour zoomer sur la question de la langue dans votre film avec cette scène de repas familial où Amel, votre héroïne, parle à ses beaux-parents et à une tante qui est présente autour de la table de son nouvel amoureux.
Je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Parce que maintenant que j'y pense, il vous ressemble un peu. Non, en fait, je crois que vous allez le détester. Je suis incapable de lui dire non.
Il me ressemble pas tant que ça, alors. Moi, je n'obtiens jamais ce que je veux.
Il a même réussi à me faire croire que c'était mon idée d'aller à Sfax.
Sfax? Je suis capable. Je me suis dit, Sfax.
La même chose qu'ici. La photographie.
Et Malouj, Fajram, Rabalana.
Zélie Srair, Rouhou Trancouche, un doudou les fesses sur une jeune femme comme toi. Ça a l'air, remarque. Tu as de la chance, Amel. Tu sais que moi, j'ai jamais eu d'amant. Je vais mourir sans avoir jamais été touchée par un homme.
Yann Kadou, nga mënul wax ci benen lak budul sa bëss.
Quels sont les mots que vous ne pouvez dire que dans votre langue maternelle?
Il ne me vient que des injures.
Allons-y.
Non, n'y allons pas.
Alors, juste pour parler effectivement de la langue, ce glissement du français à l'arabe, ça c'est quelque chose qui vous tenait à cœur dans votre film ?
Ouais, beaucoup, beaucoup. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. D'abord, je trouve qu'en Tunisie, on parle beaucoup comme ça. On passe de l'arabe au français sans même s'en rendre compte. Des mots, des locutions françaises entrent dans la langue arabe sans même qu'on s'en rende compte. Je crois que quand on dit « ça y est », par exemple, à Tunis, on ne se rend pas compte qu'on dit « ça y est », quoi. Et au-delà du fait que ça existe dans la vie, c'est un enjeu de mise en scène. Je l'organise, moi, la circulation des langues. Je la subis pas complètement. Et donc, on est là avec les comédiens. On se demande ce qui est en français, ce qui est en arabe, pourquoi, comment ça sonne. Et c'est passionnant, comme je pourrais passer ma vie sur cet enjeu-là, quoi.
Et alors, qu'est-ce qu'il est devenu, ce glissement de langue, de l'arabe au français, du français à l'arabe, quand vous êtes arrivé en France ?
C'est là que je m'en suis rendu compte. Avant, je le faisais sans m'en rendre compte. En arrivant en France, je me suis rendu compte que quand je disais des mots en arabe, les gens, je n'étais pas compris par mes interlocuteurs. Et donc, je suis passé à un français plus orthodoxe. Et de fait, j'ai perdu cette habitude. Je la retrouve quand je suis en Tunisie.
Mais vous avez vécu un moment où vous avez été dans le rejet de la langue arabe.
Oui, c'est vrai. Sans m'en rendre compte, évidemment, les rejets sont plus forts dans ce cas-là. J'ai perdu mon arabe. Petit à petit, les années passant en France, j'ai perdu l'arabe. Je rentrais en Tunisie l'été et je me rendais compte que je parlais de moins en moins bien. Et ça me dérangeait pas plus que ça, d'ailleurs. J'y allais peu, de toute façon. Et je dis que c'est un rejet, c'est une interprétation. En tout cas, je l'ai perdu. Et je n'ai retrouvé vraiment une maîtrise de mon arabe, de l'arabe de Tunisie, qu'avec la Révolution. Je considérais qu'il n'y avait jamais rien à lire dans le journal, je ne le lisais pas. Avec la Révolution, il s'est mis à y avoir des trucs à lire, je me suis mis à aller lire des émissions à entendre, etc. Et du coup, j'ai réaccoutumé mon oreille à la langue.
Donc en fait, cette perte, elle était liée aussi à... Non, pas seulement un processus de... Je ne sais plus quel mot employer maintenant, je suis perdue.
Intégration, voilà. Ou je sais pas quoi. Ouais.
Merci. C'était lié aussi à une colère par rapport à une Tunisie.
J'avais le sentiment que les questions dans lesquelles les gens étaient englués n'étaient pas du tout intéressantes en Tunisie. Moi, je les avais dépassées, je les avais laissées derrière moi, et du coup, le fait de m'y retremper, ça m'intéressait pas. La Révolution, en revanche, ça d'accord, ça m'intéresse.
Alors, vous parlez, quand vous redevenez réalisateur, de Truffaut, de Mizoguchi, de... Alors, je vais pas arriver à prononcer ce nom de réalisateur thaïlandais que vous aimez bien.
À Pichatpong,
voilà, c'est cool. Voilà, je vous remercie. Mais il n'y a pas vraiment de film arabe, apparemment, dans votre cinémathèque. Est-ce que le cinéma arabe, ça compte, vous a structuré ?
Non, c'est vrai, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, je m'intéresse beaucoup au cinéma arabe. Il y a des choses que je trouve très belles et tout ça. Mais tout en haut de la liste, il n'y a pas ou très peu de films arabes. Bon, il peut y avoir Gare Centrale de Shaheen, mais dans la bibliothèque idéale, effectivement, il y a peu de films arabes. En revanche, dans ma cinéphilie active, comme ça, aujourd'hui, je m'intéresse de très près à ce qui se passe dans le cinéma arabe. J'essaie de tout voir et il y a des choses que j'aime beaucoup et dont je me sens très solidaire et je peux me sentir appartenir à quelque chose de qui se passe, quoi. Mais ouais, Vertigo, La Règle du Jeu, c'est plus important.
C'est difficile à détrôner. Hein. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que vous vous sentez appartenir à la famille, par exemple, d'un André Téchiné ou d'une Leïla Bouzid, qui est une révélation du cinéma tunisien ? Je pense même à un Nabil Ayouch, avec son film Much Love, de côté Maroc.
Mais oui. Enfin, je vois pas pourquoi il faudrait choisir, en fait.
Et où ?
Non, pourquoi choisir ?
Je vous écoute.
Non, mais je trouve vraiment aucune réponse, quoi. Oui, je suis arabe, je sais que je le suis, je n'ai pas de problème avec ça. Je peux me sentir proche de gens, de lieux et d'époques éloignés, de préoccupations très différentes des miennes. Enfin, il n'y a pas que l'appartenance, en somme, dans le choix de nos goûts et de nos affinités. Il y a aussi des choses qui dépendent de notre désir.
Mais vous semblez désirer quelque chose, effectivement. C'est de vivre en France tout en réalisant des films qui racontent la Tunisie. Est-ce que c'est ça votre forme d'équilibre à vous ?
Oui, je désire continuer de vivre en France. Et oui, je désire continuer à faire des films en Tunisie. Et effectivement, pour parler de ma Tunisie, plutôt que d'aller dans des généralités que je maîtrise mal...
Un retour en Tunisie, ça aurait du sens ou pas pour vous ?
Pour y vivre ? Ah non.
Ah non ?
Non, ma vie est ici. J'aime vivre en France. Je veux dire, c'est facile pour moi. Je peux aller en Tunisie quand je veux, c'est à 2 heures d'avion, ça coûte pas cher, sauf en été. Et donc, j'ai pas à renoncer à une chose pour pouvoir avoir l'autre. Je peux avoir tout, alors. Voilà.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Mehdi Benatia, un film, L'amour des hommes, avec notamment Afzia Herzi, film qui sort en DVD chez Epicentre et qui est en VOD Sur la plupart de des plateformes, c'est comme ça qu'on dit. Entre scandale pasolinien et abécédaire, on va se quitter avec le duo Rodolphe Burger et Rachida. Pourquoi vous aimez ce morceau ?
Il organise la circulation entre la langue arabe et la langue française qui m'est chère. Il met pour le moment en ironie la tentative d'aller vers la langue de l'autre. Il en fait un sujet de comédie. La première fois que j'ai entendu cette chanson, j'ai bien rigolé.
Avec en bonus une petite surprise signée Pasolini.
Je pense que scandaliser, c'est un droit. Être scandalisé, c'est un plaisir. Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste.
Le sexe est-il politique ?
Bien entendu.
Et la scatologie ?
La scatologie également. Il n'y a rien qui ne soit politique.
Le cannibalisme ?
Dans certains milieux, c'est un fait politique réel. Dans d'autres milieux, c'est un fait politique métaphorique.
Est-ce que vous avez parfois la nostalgie de l'époque où les gens vous insultaient dans la rue ?
On m'insulte encore aujourd'hui.
Et ça vous cause un certain plaisir ?
Je ne le refuse pas, parce que je ne suis pas un moralisateur.
L'arabe dispose de trois voyelles brèves. L'arabe dispose aussi de trois voyelles longues. Il n'existe pas d'infinitif en arabe.
Shin, Sed, Vag. تعلم العربية معك يا حبيبي علمتك اللغنية يا سعيدي تعلم العربية يا حبيبي علمتك اللغة يا سعيدي الفرق في الشريعة الفرق في الشريعة الفرق في الشريعة علم الأغنية أتفكر في الشريعة أتفكر في الشريعة علم الأغنية سعيدي الصيف الشتاء
se prononce entre le bout de la langue et le dessus des incisives supérieures.
D'elle
se prononce entre la partie latérale avant de la langue et les molaires. Z se prononce entre le bout de la langue et les bas des incisives supérieures. Z se prononce entre le bord de la langue et les racines des incisives supérieures. Il n'existe pas d'infinitif en arabe. Alors pour nommer un verbe, on le présente au passé. La conjugaison arabe comporte deux aspects principaux. L'inaccompli et l'accompli. Le verbe d'existence est un exposant temporel qui fonctionne comme auxiliaire être.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio. Vous notez tout, hein, Mehdi Benatia. Et puis derrière votre poste, donc chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, Caroline Filliette, Sophia Bédard, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec le journaliste Mouloud Mimoun. À la semaine prochaine.